Imaginons un instant, et je suis sûr que tout le monde a déjà vécu un truc similaire. Imaginons la lecture d'un thriller haletant, ou même d'un brillant traité de philosophie.
Ouais, le genre de livre qu'on n'arrive pas à lâcher.
C'est ça. Le suspense monte, l'argumentaire se déploie avec une précision vraiment chirurgicale, on s'approche de la grande révélation finale, et soudain, la dernière page n'est qu'une liste de courses banales.
Ah oui, la frustration totale.
Mais vraiment, ou un registre de présence sans intérêt. Eh bien, historiquement parlant, c'est exactement l'impression que de très nombreux érudits ont eue en lisant le 13e et dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux.
C'est vrai que le contraste est frappant.
Bah oui, face à un texte antique et aussi dense, avec une architecture théologique majestueuse, ce chapitre a longtemps été perçu comme un simple post-scriptum, un peu décousu.
Une sorte de liste de recommandations ajoutées à la va-vite.
Voilà, du genre, soyez gentils les uns avec les autres, n'oubliez pas de m'écrire, qui semblerait presque totalement détaché de tout ce qui précède.
Et cette perception d'une conclusion accidentelle, elle est effectivement restée dominante pendant des siècles. Je veux dire, il y a une tendance académique très naturelle à vouloir compartimenter les textes anciens.
C'est-à-dire ?
On met la théologie pure d'un côté, et puis les petits conseils pratiques de l'autre. Sauf que, et c'est là que ça devient passionnant, les recherches contemporaines révèlent une toute autre réalité.
Et particulièrement les travaux du docteur David Altesilva, que nous examinons aujourd'hui pour cette analyse, non ?
Absolument. Loin d'être un rajout maladroit, ce 13e chapitre s'avère être, en fait, l'aboutissement logique et indispensable de tout le texte.
C'est carrément un manuel de survie, en fait.
C'est le mot. Un véritable manuel d'ingénierie sociale, qui est conçu non pas pour rassurer sagement les gens, mais pour garantir la survie physique et spirituelle d'une communauté qui était marginalisée, ostracisée et activement rejetée par la société qui l'entoure.
Et c'est exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Décortiquer ce prétendu post-scriptum pour révéler le guide de survie qui s'y cache. Mais avant même de plonger dans les détails de ces stratégies, il y a un cadre, une sorte de mot de passe philosophique qui encercle tout ce chapitre.
Tout à fait. Et ce concept central y repose sur un terme grec très spécifique, le mot « euarestos ».
Euarestos, et ça se traduit comment pour ceux qui nous écoutent ?
Ça se traduit par ce qui est bien agréable ou ce qui plaît fondamentalement à Dieu. Et l'architecture de cette lettre ne laisse vraiment rien au hasard. L'auteur introduit ce terme juste avant notre chapitre 13, donc à la fin du chapitre 12.
D'accord.
Il le place ensuite au cœur de ses instructions pratiques et il le fait résonner une dernière fois, tout à la fin, dans la bénédiction finale.
Donc c'est vraiment la clé de voûte.
C'est ça. L'enjeu est double, en fait. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux persécutions d'une société gréco-romaine implacable. Il s'agit de naviguer à travers cette hostilité immense, tout en cultivant un mode de vie qui soit une réponse de gratitude concrète.
Une gratitude pour atteindre quoi, au final ?
Pour atteindre ce que l'auteur appelle la cité à venir. C'est le but ultime.
Ouais. Et pour survivre dans un environnement aussi hostile, où l'on risque concrètement d'être expulsé de sa propre ville, ou banni de son cercle professionnel, voire renié par sa famille biologique, il faut bâtir un réseau de soutien interne absolument indestructible.
C'est vital. Sans ça, ils ne tiennent pas une semaine.
Et le texte montre que l'auteur déploie une stratégie linguistique fascinante autour de la racine grecque « phil », tu exprimes l'affection profonde. Il bâtit l'identité de ce groupe marginalisé autour de trois piliers lexicaux.
Lesquels tu as repérés ?
Alors, on a « philadelphie », qui est l'amour fraternel, ensuite « philoxénia », l'hospitalité, et enfin « aphilarguros », qui est l'absence d'amour pour l'argent.
C'est une triade super puissante. Mais il faut vraiment replacer ces concepts dans l'écosystème impitoyable du 1er siècle.
Parce que c'était très différent d'aujourd'hui.
Ah oui, rien à voir. Dans le monde gréco-romain, le filet de sécurité sociale, ça n'existait pas. Le chômage, la sécurité sociale, on oublie. La survie dépendait presque exclusivement du pater familias, donc le chef de famille, de la famille biologique et d'un vaste réseau très complexe de clientélisme.
Donc, si je comprends bien, si tu te convertissais à un mouvement religieux un peu marginal et que tu refusais de participer au culte civique de la cité...
Ce qui arrivait souvent à ces croyants.
Tu étais littéralement coupé de tes sources de revenus et de ta protection.
Exactement. T'étais un paria. Donc en instaurant la Philadelphie, l'auteur ne propose pas juste un vague sentiment de camaraderie de type « aimons-nous les uns les autres ». Il exige la création d'une famille de substitution radicale.
Ils devaient compenser la perte de leurs réseaux extérieurs par un partage inconditionnel de leurs propres ressources.
C'est ça. Et la philoxénia, l'hospitalité, ça étendait ce filet de sécurité aux étrangers du même mouvement qui voyageait. Le texte rappelle même, non sans un certain mystère d'ailleurs, que par cette pratique de l'hospitalité, certains ont accueilli des anges sans le savoir.
Ce qui fait directement écho au récit fondateur d'Abraham dans le désert, bien sûr. Bon, décortiquons un peu tout ça, ces mécanismes de la famille de substitution.
Vas-y, je t'écoute.
J'aime bien utiliser une analogie. Imaginons un instant la situation d'un canot de sauvetage en pleine tempête. Les passagers viennent de voir leur immense navire de croisière, qui représente ici leur statut social, leur carrière, leurs relations publiques, couler à pic.
Ouais, une perte totale.
Voilà. Et dans ce minuscule canot ballotté par les vagues, la survie du groupe dépend entièrement, et je dis bien entièrement, de la coopération absolue de chaque individu. Si quelqu'un commence à accumuler des rations en cachette sous son siège ou s'il refuse de ramer quand c'est son tour...
C'est l'ensemble du canot qui chavire.
C'est ça. Donc l'injonction qu'on trouve dans le test, d'identifier les souffrances des prisonniers comme étant les siennes propres, ça prend tout son sens. C'est pas de la belle poésie spirituelle, c'est de la physique de survie élémentaire.
Et c'est tellement vrai que l'histoire nous offre une fenêtre fascinante sur l'efficacité redoutable de ce fameux canot de sauvetage.
Ah oui, à travers quel témoignage ?
À travers un critique. Au IIe siècle, un auteur du nom de Lucien de Samosate a écrit une satire cinglante qui s'appelle « La mort de Pérégrinus ».
Lucien, c'était un philosophe, c'est ça ?
C'était surtout un cynique, un observateur très moqueur de la société, un peu comme un satiriste moderne qui dénoncerait les crédulités de son époque. Et Pérégrinus, son personnage principal, c'était un charlatan qui a réussi à infiltrer la communauté chrétienne avant de se faire pincer et de se retrouver en prison.
D'accord.
Et ce qui intéresse Lucien ici, c'est pas du tout la théologie de ces gens. C'est leur comportement sociologique qu'il juge complètement absurde. Il décrit, avec beaucoup de sarcasme, comment ces individus accouraient de toutes parts, vidaient leurs bourses, corrompaient les gardes pour passer la nuit avec ce prisonnier et s'occuper de lui.
Donc ils appliquaient le texte à la lettre.
À la lettre. Bien que le ton de Lucien soit super méprisant, le témoignage historique, lui, il est irréfutable. Cette injonction à soutenir les prisonniers fonctionnait de manière si spectaculaire qu'elle était devenue la risée, mais surtout la marque de fabrique de ce mouvement aux yeux du monde païen.
C'est quand même incroyable. Utiliser la plume satirique des détracteurs de l'époque pour valider le succès d'une stratégie interne, je trouve ça particulièrement ironique.
Ouais, c'est une belle revanche de l'histoire.
Mais le bon fonctionnement de ce canot de sauvetage nous amène justement au troisième terme de cette fondation. La philarguros, le refus de l'amour de l'argent. Et là, j'avoue qu'il y a quelque chose qui me laisse un peu perplexe.
Pourquoi donc ?
Bah, quand on lit « N'aimez pas l'argent », on a tout de suite l'impression d'entendre le bon vieux sermon très classique contre la cupidité, tu vois.
Mais la leçon drôle du suaire.
Voilà. On s'imagine une mise en garde universelle contre le fait de vouloir s'acheter trop de luxe, de s'enrichir égoïstement. Mais au milieu d'un manuel de survie à si haut risque dont on vient de parler, cette leçon de morale universelle, elle semble presque, je sais pas trop, générique. Qu'est-ce qui m'échappe dans la compréhension de ce terme précis ?
C'est une excellente question. Ce qui échappe souvent à notre lecture moderne, c'est la fonction sociologique de l'économie dans l'Antiquité. En sociologie, on utilise un terme spécifique pour ça. Les techniques de contrôle de la déviance.
Ok, donc comment on remettait les rebelles dans le rang ?
Exactement. Dans l'Empire romain, si un groupe commençait à remettre en question l'ordre établi ou refusait d'honorer les dieux locaux, la répression ne passait pas toujours par l'exécution physique dans une arène.
Ça, c'est plus la vision d'Hollywood.
Ouais. En réalité, ça passait surtout par l'asphyxie économique. Le chapitre 10 de notre épître rappelle d'ailleurs explicitement que cette communauté avait subi, avec une certaine résignation, il faut le dire, le pillage public de ses biens.
Ah oui, on venait chez eux et on prenait tout.
Voilà, perdre son argent dans ce contexte, c'était pas le résultat d'un mauvais calcul commercial, c'était une arme punitive brandie par les élites locales. La confiscation foncière, les amendes ruineuses, le boycott de leur commerce, tout ça visait à briser socialement l'individu pour le forcer à abandonner ses croyances.
Donc, si je comprends bien, dire « n'aimez pas l'argent » dans ce contexte précis, ça signifie pas « ne soyez pas des matérialistes capitalistes ».
Non, pas du tout.
Ça veut plutôt dire « ne cédez pas à la panique face à la perte de votre statut social ». C'est un peu « ne soyez pas tellement terrifié à l'idée de perdre votre confort que vous seriez prêt à abandonner vos convictions pour regagner les faveurs de l'élite qui vous a ruiné ».
La distinction, elle est capitale. C'est vraiment le désir de réintégration sociale qui est visé ici. L'auteur comprend parfaitement que la précarité financière engendre une terreur profonde chez l'être humain.
Surtout sans filet de sécurité, comme tu le disais.
Absolument. Alors, pour neutraliser cette arme sociétale, il oppose immédiatement à cette peur une promesse divine fondatrice qu'il tire des anciens textes sacrés. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
C'est une sorte de substitution de garantie, en fait.
C'est exactement ça. La société gréco-romaine retire son filet de sécurité financier pour punir. Eh bien, le texte affirme que le créateur lui-même devient le garant inébranlable. Si le divin assure les arrières de la communauté, le pouvoir de coercition des magistrats perd soudainement toute son emprise psychologique.
C'est fascinant. Et c'est là que la construction de l'argumentaire devient carrément vertigineuse. Parce que pour accepter de perdre son statut social, de voir son commerce ruiné ou sa réputation réduite à néant, sans flancher, bah, il faut pouvoir s'amarrer à une fondation absolue.
Et quelle est cette encre qu'il leur propose ?
L'auteur fournit cette encre avec l'une des affirmations les plus célèbres du texte, au verset 8. Il écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ».
C'est magnifique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour eux ?
Bah, si on file la métaphore financière qu'on évoquait, le monde antique ressemble à un marché boursier en plein effondrement pour ces gens-là. La monnaie de la réputation humaine se dévalue en un instant, le capital des amitiés politiques s'évapore à la moindre crise.
C'est très juste.
Et au milieu de ce crash total de la confiance humaine, l'auteur présente la figure du Christ comme l'ultime monnaie refuge. C'est le seul actif dont la valeur ne fluctue absolument jamais.
Le parallèle avec l'économie de la confiance est super pertinent. Et d'ailleurs, l'angoisse face à l'inconstance humaine, ça rongeait littéralement les intellectuels de l'époque. Il y a un philosophe, Dion Chrysostome.
Oui, l'orateur grec.
Voilà, il était contemporain de la rédaction de cette lettre et il en est le parfait exemple. Cet homme a connu les sommets, les faveurs des empereurs, puis un exil brutal et humiliant. Et il a écrit des discours entiers remplis d'amertume sur la nature changeante de l'être humain.
Il avait plus confiance en personne, quoi.
Mais vraiment plus personne. Il déplorait le fait qu'il est impossible de savoir si un ami d'aujourd'hui restera fidèle demain. Son conseil philosophique, qui a été forgé par les trahisons, c'était un cynisme préventif. Ne faire confiance à personne pour éviter la dévastation de la déception.
C'est triste quand on y pense.
Très sombre. Mais le chapitre 13 d'Hébreux prend le contre-pied absolu de ce cynisme impérial. Il affirme qu'une confiance inébranlable est possible, non pas dans les institutions humaines qui vont vous décevoir, mais dans la constance divine.
Cette constance divine, c'est pas juste une théorie abstraite balancée en l'air. Le texte exhorte les membres de la communauté à se souvenir de leurs anciens dirigeants spirituels, ceux qui leur ont transmis cette vision, et d'observer l'issue de leur vie, n'est-ce pas, Evelyne ?
En effet. Et là encore, le choix des mots est précis. L'auteur utilise le terme grec « ekbasis », qui signifie littéralement « l'issue ou le résultat de la conduite ».
Ça sonne un peu comme un euphémisme.
C'en est un. Dans la rhétorique de l'époque, c'est un euphémisme pudique pour désigner la mort. Ses premiers leaders sont très probablement décédés, et pour certains sous la forme d'un martyr public, pensé pour être extrêmement humiliant.
Mais ils ont tenu bon.
C'est le point crucial. Ils n'ont pas renié leurs convictions face à l'horreur. Et leur capacité à rester ferme devant une mort infamante, ça constitue la preuve empirique pour ceux qui restent que la valeur refuge sur laquelle ils ont tout misé, elle a tenu bon. L'ancre n'a pas cédé sous la tempête.
C'est puissant. Et une fois cette ancre solidement plantée, le texte exige un mouvement existentiel d'une audace folle. Il s'agit plus simplement d'encaisser les coups en attendant que l'orage passe. Non. L'auteur demande à ses croyants de rechercher activement la marge. Il écrit cette phrase choc « Sortons donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre ».
Ouais, on touche ici au sommet théologique et rhétorique de toute la lettre. Ce concept de sortir du camp, il exige de faire un saut dans le temps, vers les anciens rituels décrits dans le livre du Lévitique au chapitre 16.
Les rituels du fameux grand jour des expiations.
Exactement. Et la mécanique de ce rituel est très visuelle. Le sang de l'animal sacrifié, qui représentait la pureté, était apporté solennellement à l'intérieur du sanctuaire, donc au cœur de l'espace sacré, au centre.
Mais l'animal lui-même ?
La carcasse de l'animal, elle, qui était chargée symboliquement des impuretés, était évacuée très loin, à l'extérieur du camp, pour y être détruite par le feu. L'auteur superpose magistralement ce schéma topographique antique à la mort historique de Jésus, qui a été exécutée sur une croix plantée hors de la porte de Jérusalem, à l'extérieur de la cité.
C'est brillant. Mais, et je pose la question de manière crue, Historiquement parlant, dans l'Antiquité, l'extérieur du camp ou l'extérieur des murs de la ville, c'est pas le quartier résidentiel prisé, hein.
Ah non, c'est sûr.
C'est la décharge publique. C'est l'endroit où l'on cantonne les lépreux pour éviter la contagion. C'est le lieu des exécutions capitales, des cadavres d'animaux. C'est littéralement l'épicentre du déshonneur.
Tout à fait.
Alors pourquoi, au sein d'un texte spirituel qui est censé élever l'âme et rassurer une communauté en détresse, exhorterait-on des gens à courir volontairement vers le lieu le plus dégradant et ignoble de toute la hiérarchie sociale?
Parce que l'auteur est en train d'opérer un renversement complet de la géographie du sacré. Il puise dans une autre strate des textes fondateurs, le chapitre 33 de l'Exode.
L'épisode du veau d'or.
Voilà. Lors de cette tragédie, le campement central des Israélites devient tellement corrompu que Moïse, pour continuer à parler avec le divin, prend la tente de la rencontre et va la planter très loin, à l'extérieur du camp.
Ah, je vois où il veut en venir.
L'argument est d'une puissance subversive inouïe. Oui, l'extérieur du camp est le lieu de l'opprobre social et de la vulnérabilité. Mais paradoxalement, c'est désormais l'unique lieu où se trouve la véritable présence sacrée.
C'est un retournement de situation incroyable.
L'auteur regarde ses croyants, qui sont dépouillés de leurs biens, poussés vers les marges, et il leur affirme que leur déclassement social n'est pas une défaite. C'est une redéfinition de la victoire.
Ils n'ont pas à chercher une cité permanente faite de respectabilité humaine. Le pouvoir divin les attend précisément là où la société rejette ses indésirables.
Exactement.
Mais si l'on suit cette logique jusqu'au bout, ça soulève un immense problème pratique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si la présence sacrée a quitté le centre-ville, si elle n'est plus dans les temples majestueux, avec les chœurs et les rituels établis, comment cette communauté est-elle censée rendre un culte?
C'est la question logistique par excellence.
Oui, on ne peut pas procéder à des sacrifices rituels ou à des cérémonies solennelles dans une ruelle en bordure de la décharge. Comment on adore quand on a tout perdu?
Eh bien, la réponse apportée par le texte résout précisément cette impossibilité. Le texte s'inscrit dans le sillage direct de la grande tradition prophétique. Des prophètes comme Amos ou Ésaïe, tout comme l'auteur du psaume 50, avaient déjà amorcé ce qu'on appelle la rationalisation du sacrifice.
C'est-à-dire remplacer l'animal par autre chose.
C'est ça. Ces prophètes fustigeaient une religion de parade où l'on sacrifiait des centaines de bêtes tout en écrasant les plus vulnérables de la société. Le chapitre 13 d'Hébreux parachève cette critique. Il remplace définitivement l'autel de pierre par l'éthique humaine.
Donc, le sacrifice devient quoi, justement?
D'abord, le fruit de lèvres, c'est-à-dire le courage de confesser publiquement ses convictions dans une société qui vous condamne pour cela. Et ensuite, il se matérialise par le service social et le partage des biens. L'éthique devient la liturgie.
Le pivot conceptuel est monumental. Ça signifie que le fait de payer le loyer d'un membre de la communauté menacé d'expulsion ou le simple geste de dresser une table pour accueillir un étranger de passage s'est élevé au même rang de sacré que le sang versé jadis par le grand prêtre dans le sanctuaire.
Tu as tout compris.
C'est une décentralisation, voire une démocratisation radicale de l'expérience religieuse. Le temple, c'est plus un bâtiment, c'est le tissu social de la communauté en action.
Absolument. Et cette transformation de la liturgie, elle résout également une tension théologique très vive dans la pensée moderne. Beaucoup de traditions, particulièrement celles issues de la réforme protestante, entretiennent une méfiance viscérale à l'égard des bonnes œuvres.
Oui, la fameuse peur que la charité devienne une monnaie d'échange cynique pour acheter son salut.
Exactement, ou pour mériter la faveur divine. Les recherches du docteur De Silva éclairent ce point par la notion antique de parrainage et de clientélisme qu'on évoquait. La relation décrite ici, elle n'est pas du tout transactionnelle. C'est une boucle de réciprocité qui est fondée sur la grâce.
Donc on agit par réponse, pas pour obtenir.
Voilà. Le divin a d'abord octroyé un don incommensurable, et les œuvres sociales de la communauté ne visent pas à s'acquitter de cette dette infinie, ce qui serait impossible de toute façon, mais elles constituent la seule expression valide d'une gratitude obligatoire. La solidarité humaine n'est pas le moyen de gagner le ciel, c'est le langage de ceux qui sont reconnaissants d'avoir été sauvés.
Agir par une surabondance de reconnaissance au lieu d'être paralysé par la culpabilité, c'est un moteur psychologique bien plus durable, surtout en temps de crise. Et alors que ce chapitre déploie cette vision vertigineuse qui reconfigure totalement la géographie du sacré, il se termine de la façon la plus abrupte possible.
Ah, les fameuses salutations.
Ouais. On passe de considérations cosmiques à ce qui ressemble à des salutations de fin de réunion de quartier du genre « Au fait, dites bonjour à un tel ». pourquoi clore un texte aussi subversif avec des codes épistolaires aussi triviaux ?
Mais parce que l'apparence de banalité est très trompeuse. Ces quelques lignes, ce sont de formidables capsules temporelles historiques qui ancraient le texte dans une réalité géopolitique immédiate.
Par exemple ?
Prenons la mention expresse de la libération de Timothée. Timothée, c'était une figure de pro, un protégé de longue date de l'apôtre Paul. Annoncer sa libération, c'est pas un simple potin mondain. Survivre à l'enfer d'une prison romaine, c'était jamais garanti. C'est une nouvelle qui devait galvaniser l'auditoire de manière incroyable.
C'est une preuve que la résilience paye.
Exactement. Et ensuite, il y a cette courte formulation « Ceux d'Italie vous saluent ». Alors, bien que ce soit un peu cryptique, la grammaire grecque originale penche fortement vers l'idée que ce document a été rédigé depuis l'Italie, sans doute depuis Rome, par un auteur en exil et envoyé vers une autre destination en Méditerranée.
Donc, c'est pas juste une liste d'amis qu'on salue. C'est une façon de rappeler à cette petite communauté persécutée et isolée qu'elle n'est pas seule dans son coin. Elle fait partie d'un réseau de solidarité internationale clandestin.
Et psychologiquement, c'est un rappel vital, savoir qu'on n'est pas seul au monde quand on souffre. Et le document se referme enfin sur une bénédiction majestueuse qui vient boucler la boucle de tout le texte. L'auteur invoque le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis.
Une belle image.
Oui, et c'est surtout un écho direct et assumé au chapitre 63 d'Ésaïe, où le prophète se remémorait comment Moïse, le berger originel, avait fait traverser la mer Rouge à son peuple.
Et il applique ça à Jésus, du coup.
Voilà. En attribuant ce titre monumental à la figure du Christ, l'auteur fusionne la puissance irrésistible de la résurrection, la solidité de l'alliance éternelle et la garantie divine de produire en l'humain ce qui permet d'accomplir sa volonté.
Et nous y revoilà. L'expression utilisée pour la volonté divine ici, c'est précisément notre mot-clé du départ.
Orestos. Ce qui plaît à Dieu. La construction est d'une symétrie parsète.
C'est une architecture intellectuelle brillante. Nous avons commencé par l'hypothèse d'un texte un peu confus, ajouté comme une arrière-pensée, pour découvrir finalement le cœur nucléaire de l'application pratique de toute la lettre.
Le mode d'emploi, quoi.
Ouais. L'auteur transmet une stratégie de résilience implacable. Utiliser la gratitude comme carburant inépuisable de l'action, bâtir une communauté de substitution radicalement généreuse et, surtout, cultiver ce courage immense d'assumer l'opprobre en s'installant volontairement hors du camp.
Et c'est une analyse qui force inévitablement à regarder notre propre époque avec une certaine acuité. Parce que lorsqu'on observe les dynamiques religieuses contemporaines, la tendance lourde, c'est souvent la recherche du centre, pas de la marge.
C'est clair ? On veut être accepté ? Respecter.
Les institutions religieuses sont régulièrement perçues ou utilisées comme des leviers pour acquérir de la respectabilité bourgeoise, de l'influence politique ou pour gravir les échelons de l'establishment. Et le texte d'Hébreu 13, il lance un défi cinglant à cette dynamique.
Une vraie gifle.
L'appel original, il consiste à fuir délibérément l'illusion de sécurité de cette cité pour s'enraciner dans les marges, aux côtés des parias. Et ça, ça soulève une réflexion dérangeante mais essentielle pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Si l'héritage authentique de ce mouvement ne peut être trouvé et vécu qu'à l'extérieur du camp, la quête frénétique d'acceptation sociale et de pouvoir institutionnel n'est-elle pas la trahison la plus parfaite de cette identité originelle ?
C'est une perspective foudroyante pour clore cette analyse. Le navire du confort social est parfois le piège le plus dangereux, bien plus que la tempête elle-même. Si l'on souhaite retrouver la radicalité de cette solidarité première, il faut peut-être se demander quel camp familier et douillet il est urgent de quitter aujourd'hui. Il y a de quoi nourrir de longues réflexions bien au-delà de ces échanges. Merci d'avoir partagé toute cette expertise. Et merci à tous ceux qui suivent cette émission. Gardons l'esprit ouvert et à bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.